France Culture.
À voix nue, Alexandre Amiel.
Richard Malka, avocat.
Bonsoir Richard Malka.
Bonsoir.
Hier, nous avons abordé les nombreux procès, parfois très médiatisés, pour lesquels on vous connaît, et les causes qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, avec ce troisième épisode, je voudrais vous entendre sur l'affaire qui vous occupe depuis vos débuts, avec laquelle vous êtes en quelque sorte né comme avocat, votre compagnonnage avec Charlie Hebdo. Donc cet épisode 3 s'intitule « L'aventure Charlie Hebdo ». Comment est-ce que cette aventure a commencé? Ça remonte à très longtemps, je crois.
Ah, ça remonte à l'été 1992. Donc je suis avocat...
Vous avez quel âge?
J'ai 23 ans, je suis avocat depuis 6 mois, donc rien. Et arrive au cabinet ceux qui veulent relancer le titre Charlie Hebdo, qui a cessé de paraître en 1985, de mémoire, à raison de difficultés financières, ils se vendaient plus. Et donc, entre-temps, il y avait eu La Grosse Bertha, un journal de caricature. Et puis, il y a eu une scission au sein de La Grosse Bertha. Et un groupe avec Cabu, Wolinski, Renault, Philippe Val, GB, décide de refonder Charlie Hebdo. Avec Cavana. Et donc, il lance le journal. Et immédiatement, il y a un procès en contrefaçon parce que une société avait déposé le titre Charlie Hebdo à l'INPI. Et nous, on disait que c'était Cavana qui était l'auteur de ce titre, protégé par le droit d'auteur, et que donc le dépôt de marque ne valait rien. Mais immédiatement, il y a un référé saisi des recettes du journal. Et donc, arrive pendant l'été, l'équipe de Charlie Hebdo, donc des monstres sacrés, et c'est moi qui fais la permanence au cabinet. Je suis tout seul. J'ai 23 ans. Je viens de là où je viens, un milieu très populaire. Je regardais tous ces gens à la télé. Et puis, je les vois débarquer au cabinet, me parler de contrefaçon. Je comprends même pas de quoi ils me parlent. J'ai un look improbable, mais je sais pas, quelque chose se passe. Ils font confiance à ce gamin qu'ils ont devant eux. Évidemment, ils viennent pas me voir moi, hein, ils viennent voir le cabinet. Mais quelque chose se passe, et puis bah, l'aventure démarre comme ça. Et ça dure depuis donc maintenant 33, 34 ans.
Mais Richard Malka, qu'est-ce qui vous lie immédiatement à cette équipe? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier avec qui vous êtes tout de suite entendu?
Alors, il y a donc les monstres sacrés, les anciens, et puis il y a les petits nouveaux. Et les petits nouveaux, ils ont mon âge. Ils s'appellent Rhys, Charb, Luz. Tinew, c'est la génération d'au-dessus, mais on devient aussi très, très, très amis. Et donc, on a le même âge. Et on commence ensemble, moi comme avocat, eux comme dessinateur. Et il va y avoir plein de procès au départ, parce que la jurisprudence est encore assez répressive. Et donc il y a des procès.
C'est la bonne nouvelle pour vous, jeune avocat, c'est qu'avec Charlie Hebdo, vous avez tout de suite plein de travail.
Plein de travail. Et en fait, c'est tellement... Les dessins sont bien pires qu'aujourd'hui. En fait, les caricatures sont pires qu'aujourd'hui. J'ai le souvenir d'une caricature sur Caroline de Monaco, mais horrible. Et donc, personne ne veut, en gros, aller les plaider. On est très content de m'envoyer, moi. Moi qui me rends même pas compte de ce que je plaide, en fait. J'y vais naïvement et je défends... J'ai été défendre des procès où il y avait... à un moment, il y avait Marie-Caroline Le Pen qui se présentait à la mairie de Neuilly contre Sarkozy. Charlie Hebdo titre Neuilly, c'est le caniche de Balladur qui est opposé à la chienne de Buchenwald. Ça, faut aller le plaider. Hein. Évidemment, Marie-Caroline poursuit Le Pen, sauf que la chaîne de Buchenwald, elle a vraiment existé. Et elle se faisait des abat-jours avec les morceaux de peau portant le tatouage des déportés. Donc, c'était aller un peu loin. Mais j'y allais, et avec fougue, avec idéalisme, je défendais la liberté d'expression, de caricature... Aujourd'hui, je pourrais plus le faire. Je comprends les gens qui étaient au cabinet à cette époque-là qui m'envoyaient parce que aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire. Il faut être jeune et un peu inconscient pour y aller. Et donc j'ai grandi avec eux. J'ai grandi avec eux, on est devenus amis.
Vous étiez lecteur du journal ou familier du dessin de presse avant de rejoindre Charlie?
Alors, non, mais il faisait partie de ma culture. C'est-à-dire que Cavana, il passait apostrophe. Donc c'était ma culture.
C'était l'étalon, apostrophe.
Ah oui. Et puis, oui. Et puis tout le monde connaissait Cabu. Et puis, alors, on retombe sur cette volonté farouche d'assimilation de mes parents. C'est étrange d'ailleurs, parce que c'était pas des progressistes, des avant-gardistes. Mes parents, une culture marocaine, plutôt traditionnelle. Mais ils ne rataient jamais une intervention de Coluche, de Leluron, de des proches, du petit rapporteur. Ça vous parle, je sais pas si ça vous parle, mais de Colaro, de Jacques Martin. C'était de leur culture. On était là aussi religieusement devant la radio, devant la
culture
la télé.
De la télévision
oui,
populaire.
Et de l'humour. De l'humour très, très déconnant. Très incisif. Pas du tout politiquement correct. Et en fait, ils auraient pu être très choqués, par ça. Mais ils n'en rataient pas. Et je pense que, pour eux, il y avait un truc de liberté, en fait, venant d'où ils venaient.
Et pour vous, héritier de cette culture, est-ce que c'était pas l'occasion d'exercer un métier sérieux tout en continuant à faire partie d'une bande d'adolescents irresponsables, un peu?
Probablement, ça résonne en tout cas. Ça résonne avec cette singularité, cette excentricité, avec ce goût de la liberté, avec avec les valeurs républicaines aussi.
Alors au début, les premiers procès viennent plutôt d'associations catholiques. Votre manière
intégriste.
Évidemment, intégriste. Votre manière de plaider vos arguments était-il déjà là?
Ah oui. Oui, parce que je vous dis, ça, c'est mon être intérieur, on change pas son âme. Et donc, ma manière de plaider correspond. Je sais pas si j'ai toujours été dans la vérité dans la vie, je crois pas. Je crois que personne peut dire ça, mais quand je plaide, j'y suis. Quand je plaide, c'est vraiment, je triche pas.
Et puis, il y a un changement. C'est quand la question de l'islam apparaît. Est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux symboliques, politiques qui apparaissent en même temps?
Pour nous, non, puisque on a été opposés aux intégristes chrétiens. C'était la Griffe, une association liée à l'extrême droite, au Front National à l'époque, qui nous attaquait. Donc c'était exactement au bout de 10 ans, ils ont arrêté parce qu'on a tout gagné. Et donc ensuite, il y a eu exactement les mêmes procès sur les mêmes fondements, avec les mêmes arguments, faits par au nom de l'islam. Donc pour nous, c'était la même chose. Et on n'a pas compris qu'en fait, on serait beaucoup moins soutenu, et ça ferait beaucoup moins, et ça ferait pas rire de la même manière, et ça ferait peur. On n'a pas vu tout ça arriver, nous. Mais si on n'avait pas fait la même chose, alors là, on n'avait plus aucune raison d'être. Et là, on aurait pu nous accuser d'être différentialistes. Ça aurait été ça pour nous. La discrimination aurait consisté à se dire, on peut caricaturer les chrétiens et les juifs et les bouddhistes et tout ce qu'on veut, mais pas l'islam.
Alors on sait, Richard Malka, que l'affaire des caricatures commence en septembre 2005 au Danemark, avec la publication de 12 dessins et caricatures qui représentent Mahomet. Mais pour vous, ça commence même avant, en 2004, avec l'assassinat aux Pays-Bas de Theo van Gogh par un islamiste. Ouais. Est-ce que vous pressentiez, dès ce moment-là, que Charlie, journal qui est, selon vos mots, à l'avant-garde de la liberté d'expression, était concerné? Est-ce que Charlie pouvait jouer un rôle dans cette affaire? Ou est-ce que c'était un sujet de débat, voire de désaccord au sein de la rédaction quand
alors,
tout ça
non.
arrive?
Non, il y avait tout était sujet de débat et de désaccord au sein de Charlie Hebdo. Mais vraiment, parce qu'on a, je sais pas, les gens parfois ont l'impression que c'est monolithique. D'abord, aucun média n'est monolithique, et alors celui-là l'était moins que tout autre. Et donc, il n'y a pas un sujet où ils n'étaient pas en désaccord les uns avec les autres, et parfois violemment. Mais pas celui-là.
Sur celui-là,
la critique des religions, le droit au blasphème de toutes les religions, ben c'était une évidence. Mais sinon, sinon
donc, quand arrivent les caricatures,
évidemment,
il faut les publier.
Ça fait aucun doute pour personne. Il n'y a aucune réserve. Il faut y aller. Il faut défendre la raison d'être de ce journal. Ce qui est au-delà, j'ai écrit et puis j'ai plaidé tout ça, ce qui correspond à une singularité française, à ce que la France peut apporter au monde. Cette liberté-là, cet acte de résistance face aux religions, face au prosélytisme religieux, face au dogmatisme, au sectarisme.
Et là, un peu tout change. Philippe Val est sous protection policière, déjà assez, Cabu aussi déjà assez tôt. Et en 2007, vous vous retrouvez avec un premier procès important. Vous défendez Charlie Hebdo avec Georges Kegeman, comme vous nous l'avez rappelé, face à l'Union des organisations islamiques de France, à la Grande Mosquée de Paris et la Ligue islamique mondiale, ouais. Et vous gagnez.
Ouais.
Et là, à peu près toute la classe politique témoigne avec vous, François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui se rend pas à l'audience mais qui apporte un témoignage, François Bayrou, tout le monde témoigne de ce soutien à Charlie Hebdo. Est-ce que vous aviez l'impression à ce moment-là d'une sorte de consensus national en faveur du journal ?
Non. C'est la première fois, pour le coup, que l'on a senti qu'il y avait un malaise.
Déjà en 2007.
Un malaise à gauche. Plus spécifiquement. Bon, que la droite, et une partie de la droite, ne soutenait pas Charlie Hebdo, la thématique de l'huile sur le feu, etc., irresponsable, Jacques Chirac, le premier. Mais ça, on y était habitué. Mais que la gauche, sur cette question-là, de la liberté d'expression, de la liberté de critique des religions, de blasphème, ne soit pas derrière nous, alors qu'elle l'avait toujours été, quand il s'agissait de caricaturer des curés, des évêques et le pape, ça, on l'a senti. Hein. Ça, on l'a vraiment senti. Et c'est la première fois qu'on le sentait vraiment. Et là, il y a un malaise... Qui s'est ancré, qui n'a fait que grandir jusqu'à créer un gouffre très très mal vécu par l'équipe de Charlie en général et Charb en particulier, et qui a abouti à ce qu'il soit qualifié à tout bout de champ d'islamophobe. Ce qui a conduit Charb d'ailleurs dans son ouvrage quasi posthume à répondre avec sa lettre contre l'islamophobie. Non, là, il y a un fossé qui a commencé à se creuser, en fait. Là, et qui a conduit au 7 janvier.
Et avant ça, parce que ce fossé,
vous, il y avait eu des alertes,
parce que en 2011, il y a un incendie criminel, ouais. Qui chasse l'équipe du journal de leurs locaux.
Ouais.
Et toujours autour d'une histoire de caricature de Mahomet, cette fois c'était en Turquie, de mémoire.
En Tunisie, pardon.
Et c'est plus la même histoire, là. S'ensuit une tribune contre le soutien à Charlie Hebdo,
ouais.
Pour la liberté d'expression, mais contre le soutien à Charlie Hebdo. Ouais.
Et c'est là que le grand retournement
se fait. Parce que est-ce que vous diriez que, dès cette période, malgré lui, le journal a été révélateur de fractures dans l'opinion française ?
Ah oui. Non, mais la place de ce journal dans l'histoire de France est dingue. C'est un journal de 30 personnes. C'est rien, c'est de 30 iconoclastes, joyeux de riz, fouteurs de merde. Et la place que ça a pris dans notre histoire est incroyable. Donc oui, bien sûr, ça révèle les fractures françaises sur la liberté d'expression, sur le rapport à l'islam, avec derrière tout un tas de questions sur le discours victimaire, la culpabilité française, la décolonisation qui pose problème. Et ces questions sont toujours pas réglées. Le rapport à l'intégration, à l'islam, tout ça, ça en tourne autour. La question du voile, la violence dans l'islam, ces questions que j'ai traitées au fil des procès, en fait. C'est passionnant. mais ça fait beaucoup pour un journal.
Beaucoup de responsabilités ?
Beaucoup de responsabilités, et on a eu l'impression que sur ce qui aurait dû faire consensus, comme la publication des caricatures, qui est un droit, alors que des dessinateurs étaient menacés de mort, alors qu'il y avait eu des morts lors des manifestations, alors qu'il y a des patrons de presse qui étaient virés en France, je parle de celui de François, on a eu l'impression d'être laissé un peu seul, en fait.
Et puis arrive le 7 janvier 2015, et cette attaque terroriste dans les locaux de Charlie, donc au milieu d'une conférence de rédac, qui fait au total 12 morts et 11 blessés. Les hasards du calendrier font que nous enregistrons cette émission un 7 janvier, Richard Malka. Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier en ce jour? Ou bien est-ce que vous diriez que c'est toute votre vie qui a basculé depuis le 7 janvier 2015?
C'est évidemment toute ma vie. Il y a un avant et un après. C'est comme s'il y avait des vagues de radiation, en fait. Et plus le temps passe, plus on ressent leur effet. Immédiatement, évidemment, il y a c'est violent, il y a des émotions violentes, la tragédie, la peine, la tristesse, la colère, la rage. Mais ça change en profondeur et ça, plus le temps passe, plus on le ressent. Ça crée une assez grande solitude, en fait, parce que c'est très compliqué de partager ça, et on veut pas embêter les gens, et puis de toute façon, on n'arrive pas à trouver les mots, et puis je pense que c'est commun à toutes les personnes qui ont vécu des tragédies un peu hors normes, mais celle-là, c'était fou, puis c'est aux yeux du monde entier. Et donc, il y a quelque chose qui écrase d'être rattaché à cette histoire-là, donc évidemment, ça change tout. Il y a un rapport à la vie qui est différent. Les mots de Catherine Meurice sont assez justes sur la perte de la légèreté définitive qui a eu lieu de ce 7 janvier-là. Je ressens pas forcément plus en 7 janvier qu'un autre jour. C'est tous les jours.
Vous étiez où ce 7 janvier 2015 ?
J'arrivais à mon cabinet quand un de mes clients, journaliste, producteur, Tony Comiti pour pas le citer, m'appelle pour me dire il y a quelque chose qui se passe à Charlie. 5 minutes après, c'était sur. Je commence à avoir des appels de journalistes parce que. En fait, tout le monde, tous les journalistes ont mon numéro de téléphone, donc et ça n'arrête plus. Et donc je prends un taxi, je file, j'y vais. Et là, tu bascules dans un autre monde, en fait, où tu dois annoncer la mort de proches à des proches, où tout ton univers va aller à la moitié de tes amis qui sont morts d'un coup, ton meilleur ami, Charb. Dans un truc qu'on peut pas réaliser, en fait, c'est tellement dingue, tout est fou, on bascule dans un autre univers. Pendant des heures et des heures, je ne pouvais même pas avoir accès à mon téléphone pour appeler, pour rassurer ma mère, parce que j'y allais de temps en temps, moi, à la conf de Charlie, mais j'avais tellement d'appels téléphoniques.
Vous décrochiez, vous raccrochiez, quoi.
Je ne pouvais pas y avoir accès. C'était impossible, du monde entier, des journalistes du monde entier. Donc, et comme ça a duré des heures. Et puis, tout est dingue. Après, on me met dans un car pour partir à l'Hôtel Dieu, pour avoir des consultations psy. Moi, j'ai rien à faire là. Moi, je sais qu'il faut que je porte. Et ils sont tous dans un tel état que il y en a plus beaucoup qui restent debout. Et je sais qu'il y a des messages à faire passer. Et je sais que il faut que Charlie, c'est la seule chose que je sais. Il faut qu'il y ait un Charlie la semaine suivante.
Donc, c'est votre conviction à ce moment-là.
Ah oui. Hors de question qu'il n'y en ait pas.
Pourquoi?
Parce que ce serait, parce que ils auraient gagné.
Et 3 jours après, le 10 et 11 janvier, se tiennent des marches dites républicaines où il y a la plus grosse manifestation de l'histoire contemporaine, avec 4 millions de personnes à travers la France. Le pays entier est Charlie. Charlie devient un symbole national, ce qui n'avait, dites-vous, aucune vocation à devenir. Non. Vous dites que vous ne vous sentiez pas à votre place ce jour-là. Pourquoi ?
Mais parce qu'on n'avait pas vocation à être applaudi par des gens aux fenêtres, par 4 millions de personnes. C'est pas Charlie. C'est un journal totalement aux marges. Pas fait pour être, pour faire consensus du tout. Et donc, on était complètement à contre-emploi. Et en même temps, il fallait y être. Et c'était normal qu'on y soit, et normal qu'on soit soutenu, applaudi. C'était beau, c'était émouvant. Mais il y a un télescopage historique qui est fou de nous avoir placés là.
Avec le Je suis Charlie.
Vous me demandez ce que je faisais. Je savais qu'il fallait que je sois là. Mais je me demandais ce que je faisais là. Enfin, tout était irréel, mais c'était un truc parmi d'autres. Hein. Cette période-là, c'est comme dans un rêve pour moi, un cauchemar, un rêve. C'est flouté tellement c'est. J'étais dans une autre dimension.
Vous aviez l'impression d'être à côté de vous ou au-dessus, de pas être dans.
À côté de moi, complètement ailleurs. Je mettais plus les pieds au cabinet. Il y avait un milliard de choses à gérer pour des gens qui ne savaient rien gérer. Fallait mettre en place des indemnisations, faut s'occuper des gens, relancer le journal, répondre aux milliards de politiques, de journalistes, de tout le monde économique qui voulait nous aider, tout réorganiser, aller chez Libé à nouveau, puisqu'ils nous ont accueillis, hébergés pendant longtemps. Enfin, tout était fou, quoi. Tout était fou et tout était différent pour toujours.
Il a fallu attendre 6 ans. En fait, le procès des complices des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, qui a eu lieu en 2021, et un procès en appel qui s'est tenu en 2023 pour 2 des accusés. Qu'est-ce que vous attendiez de ces procès, Richard Malka ?
Moi, ce que j'attendais, c'était politique. C'était pas judiciaire.
C'était pas cathartique, c'était plus politique.
Non, pas pour moi. Pas pour moi, les accusés.
C'était pas une manière de reprendre la parole, de redonner sa place à Charlie ?
Si. Et ça, c'était politique. Moi, j'avais voulu défendre uniquement la personne morale. Donc, l'idée. Je défendais une idée, celle de la liberté. Au fond, c'était ça, mon rôle. Et je le faisais en hommage à ceux qui étaient morts pour ça. Et là encore, ma place était infernale, parce que normalement, un avocat, ça a une distance. Et là, j'étais avocat, mais j'étais témoin, j'étais acteur, j'étais partie civile quasiment. J'avais mes amis, les parents de mes amis. Je l'ai écrit d'ailleurs dans Charlie. Je ne savais pas quand j'allais rentrer dans cette salle d'audience où me placer, sur quel banc aller.
Vous auriez pu les occuper tous, quoi.
Ouais. Et puis, c'est la merveille de ma profession, c'est que une fois que vous mettez votre robe. Vous êtes un peu quelqu'un d'autre. Et puis vos confrères vous ramènent à eux la scénographie judiciaire, la liturgie judiciaire vous aspire et vous redevenez avocat. Mais j'avais
écrit... Vous étiez comme protégé par la fonction ?
Oui, en tout cas pas protégé, mais à un moment, c'est la fonction prend le dessus sur le reste. Et je l'ai écrit, c'était le dernier endroit où j'avais envie d'être, mais je ne pouvais être nulle part ailleurs qu'à cet endroit-là.
Vous gardez le silence sur ceux qui ont été tués, Richard Malka, même 10 ans après. Dans Après Dieu, vous écrivez « Mais je ne t'ai rien dit de Charb et de tous ceux de Charlie qui ne sont plus. J'aimerais en être capable, mais je ne peux pas. J'y arrive toujours pas. Cela fait 10 ans, mais c'était hier, ce sera toujours hier. Pourquoi cette impossibilité? Pourquoi ce silence?
Ah, déjà, parce que cette pudeur dont on parlait les jours précédents. Et puis, serais pas capable. Donc, j'ai pas, dans mon univers mental, on ne verse pas de larmes en public.
Mais peut-être parfois que ça fait du bien, ça vous ferait peut-être du bien de verser des larmes en public ou en privé. Ça serait peut-être, ça vous aiderait.
Oui, peut-être en privé, mais non, je pense que c'est une conception de la dignité, et puis y en a tellement d'autres qui ont vécu des choses beaucoup plus dures dans cette histoire-là. Donc c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de combattre.
Combattre.
Et si on verse des larmes, on peut vite se laisser aller. Donc c'est combattre. C'est mon rôle. C'est ce que je leur dois. C'est comme ça que je conçois les choses. C'est là où je veux être. Juste autant que je puisse le faire. À un moment, peut-être que les larmes m'emporteront, mais c'est le danger. Et j'ai encore à combattre.
Y compris pour Charlie.
Ah oui.
Et c'est quoi aujourd'hui les combats
plus
de Charlie?
Plus que jamais, ouais.
C'est quoi aujourd'hui?
Écoutez, on est 11 ans après et Charlie est toujours là. Et c'est incroyable. C'est un miracle. Et on le doit à Harris. On le doit à tous ceux qui y sont. C'est pas facile. Il travaille dans un bunker. Vous pouvez imaginer à quel point c'est compliqué. Le drame est là tous les jours. Et on voit à quel point il reste le poil à gratter nécessaire, indispensable. Et il n'y en a plus beaucoup dans notre société. À quel point ils énervent encore. À quel point ils provoquent des réactions parfois enflammées, violentes. C'est nécessaire. C'est le rôle du bouffon du roi, de celui qui va chatouiller toutes les puissances, tous les partis politiques.
C'est nécessaire même quand c'est de mauvais goût, même quand c'est...
Évidemment. On veut quoi? Une société complètement aseptisée? C'est là que le mal surgit. Le mal, on le regarde en face, on le regarde en nous, c'est l'humour noir, on le dessine, on en rit, on en fait quelque chose. On ne fait pas comme s'il n'existait pas dans une société hygiénique.
On arrive à la fin de cet épisode, Richard Malka. Charlie, c'est aussi une affaire de dessin, un art dont vous êtes en réalité familier depuis votre plus jeune âge, puisque vous êtes, et c'est moins connu, un scénariste prolifique de bande dessinée. Donc demain, ça sera un peu plus léger, nous évoquerons ensemble votre production littéraire, bande dessinée, mais aussi romans, essais, qui font de vous un auteur au sens large. À demain, Richard Malka, pour la suite de ces entretiens à voix nue.
À demain.
À suivre, épisode 4, Richard Malka, auteur. C'était À Voix Nue, réalisation Charlotte Roux, prise de son Maëlle Larfassor, chargée de programme Daphné Abgral, une série d'Alexandre Amiel disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.